Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Et bienvenue sur cette libre antenne du dimanche soir, cet espace particulier dans lequel chacun vient chercher quelque chose. Pour ceux qui appellent, ce peut être une oreille attentive, des mots qui consolent, qui encouragent ou qui font du bien. Pour ceux qui participent et réagissent par SMS, c'est un moyen de faire preuve de bienveillance, un moyen aussi de se rendre utile quand on peut soumettre une solution ou apporter une bonne idée. Enfin, pour ceux qui sont de l'autre côté du poste et qui écoutent ces histoires de vie qui se déroulent sur notre antenne, c'est souvent une manière d'apprendre de l'expérience des autres ou simplement de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à vivre telle ou telle situation compliquée, difficile ou douloureuse. Et puis il y a aussi les témoignages positifs qui nous font du bien. Tous ces gens qui viennent nous raconter comment ils ont affronté une difficulté, géré une maladie, surmonté un deuil, toutes ces petites lumières qui viennent éclairer notre chemin. La libre antenne, c'est tout ça et bien plus encore. Alors ce soir encore, soyez les bienvenus. Pour ceux qui veulent écouter, bien rester bien calés sur Europe 1. Pour ceux qui souhaitent prendre la parole, vous nous appelez au 3921. Hassan et Oscar sautent au standard ce soir et attendent vos appels. Enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent réagir ou participer par SMS, vous faites le 73921 et vous commencez par le mot nuit. À la réalisation, le chef d'orchestre ce soir, c'est Fabrice Fougerouze. Et votre libre antenne commence tout de suite.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et elle commence avec l'appel de Jean-Paul. Bonsoir à vous, Jean-Paul.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Bienvenue. Merci.
Alors, je vous écoute, Jean-Paul.
Donc, comme je disais à Oscar, je voudrais repartir voyager. Et après le décès de ma mère, qui a eu lieu à peu près un an... décembre, exactement.
Jean-Paul, pardonnez-moi, est-ce que vous êtes sur un kit main libre, là ?
Non, j'ai les oreillettes.
Ah oui, parce que oui. C'est ça.
Non, j'ai pas les oreillettes. Donc, j'ai le portable, je suis dehors. Hein. Et j'ai juste les écouteurs, voilà.
Alors là, c'est, on vous entend mieux, là, maintenant.
Ça va mieux ?
Oui, c'est mieux, merci.
Donc, je reprends. Mmh. Donc, après le décès de ma mère, je m'étais juré de repartir voyager sur la route. J'avais toujours l'habitude de voyager en vélo.
Qu'est-ce que vous appelez donc, voyager ? C'est vous faites ça sur votre temps libre ou comment vous organisez ça ?
Ah, j'organise ça. J'ai toujours été voyageur en vélo. Vous voyez ? C'est-à-dire que je voyageais toujours environ 3 mois par an.
D'accord.
Donc, je partais un petit peu dans tous les pays. Et comme je dis à Oscar, j'ai accompagné ma mère pendant 4 ans. Je ne voulais pas la mettre dans une maison de retraite. Et donc, je me suis occupé d'elle. Mmh. Et ma mère, le médecin lui a diagnostiqué une démence sénile. Et donc, c'était un peu compliqué.
Ouais, j'imagine.
Parce qu'elle avait... Oui ?
Quel âge avait-elle quand elle a été diagnostiquée ?
Je ne sais plus.
Encore jeune, en tout cas.
Oui, oui. Puisqu'elle est partie en 93.
Ah oui.
Oui. Mais là, c'était léger. Vous voyez, ça s'est empiré. Mm-hmm. Et je ne voulais pas. Je ne voulais absolument pas la mettre dans une maison de retraite parce qu'elle avait du mal à marcher. Elle a été opérée. quand elle avait 76 ans à la hanche, hanche gauche, donc elle avait du mal à avancer, etc. Et dans les dernières 5 années de sa vie, on est passé devant un juge je sais plus comment ça s'appelle quand on s'occupe de, vous savez, des comptes, etc.
Vous étiez son tuteur.
Voilà. Mais au départ, je voulais pas être tuteur. Je voulais que c'est ma sœur qui s'en occupe, puisque moi, j'avais dit, écoute, Eliane, c'est ma sœur Eliane, parce qu'on était juste deux personnes qui s'occupaient de ma mère, les autres, ça les intéressait pas. Et malheureusement, le juge n'a pas accepté, pour je ne sais plus pour quelle raison, et il voulait donc choisir une tierce personne. Alors, ma sœur ne voulait pas. Elle a dit, écoute, essaye de nouveau que ce soit toi. Et ben, à ce moment-là, j'ai fait une lettre et que j'ai été choisie, effectivement.
Donc, vous avez tout géré ça. Sur tous les plans, en fait.
Ouais, oui. Et donc, j'ai fait ça pendant 5 ans.
Oui.
Et avec l'aide de ma sœur, hein, faut quand même dire, une de mes sœurs. Hein, les autres... ça les intéressait pas. J'ai essayé de les contacter. Ils voulaient plus de relations, etc. Je pense que tout ça c'est lié à cause de mon père qui était pas très gentil, qui était plutôt tyrannique et qui était adepte de l'alcool.
Ah. Donc c'est une famille un peu éclatée du coup.
Complètement, ouais. Complètement éclatée. Quand on était gamin, c'était pas joyeux, quoi.
Ouais, ça fait des dégâts, l'alcool.
Comment ?
Ça fait beaucoup de dégâts, l'alcool.
Oui, ça fait beaucoup de dégâts. Je confirme. Vous savez, moi, quand j'étais petit, je restais jamais trop longtemps à la maison. Je cherchais toujours un échappatoire.
Ouais.
Je partais dehors, j'allais dans la forêt, etc. J'aime la nature. Donc, je m'échappais comme je pouvais.
Ouais.
Parce que mon père, il voulait s'occuper. On était là, mais sans plus, quoi. Puisqu'on était huit enfants, mais il ne faisait rien, quoi. Il s'occupait pas. Il travaillait, bien sûr, là, il n'y avait pas de problème.
Mais c'était pas un papa, quoi.
Non. Non, malheureusement. Donc, moi, je ne sais pas trop ce que c'est vraiment. Hein. Mais moi, à cette époque-là, je pensais que toutes les familles ressemblaient aux nôtres.
Eh oui, oui bien sûr. Que... Quand on est petit, on n'a pas de comparaison.
Non, je pensais vraiment que toutes les familles ressemblaient aux nôtres. Et c'est seulement en allant chez une famille qui habitait dans le même immeuble et que j'ai vu que là, c'était plutôt plus joyeux, quoi. Tiens, le père, il boit pas. Tiens, c'est plutôt tranquille. Tandis que chez nous, quand il rentrait le soir, qu'il était alcoolisé, il fallait pas rester dans les environs.
Ouais.
Donc, c'était compliqué. Et les Noëls, n'en parlons même pas. Les Noëls, c'était tout sauf un Noël. Ça commençait toujours bien, par les chants de Noël, vous voyez. Mais une fois qu'il était bien alcoolisé, il disait, moi, quand j'étais petit, je n'ai pas eu de Noël, vous n'en aurez pas. Et voilà.
Est-ce qu'il est allé jusqu'à la violence physique avec vous?
Jamais. J'en mets sur moi mes frères et sœurs, oui. Oui.
Et
moi, il ne m'a jamais touché.
Et votre...
Je ne sais pas pourquoi.
Votre maman?
Je ne pense pas.
Non, d'accord.
Il était plutôt verbal. Vous voyez, il est très grossier. Mais mes frères, oui. Et je me rappelle des corrections. C'est-à-dire quand mon père me disait... Par exemple, à 18h, il faut être à la maison. Eh ben, si à 18h01, il se pointait, c'était le ceinturon. Donc, moi, j'entendais les cris, j'entendais... donc, voilà, c'est une enfance comme ça que j'avais, moi.
Est-ce qu'il est toujours en vie, ce père ?
Non. Non, non, mon père, il est mort, il avait 67 ans. Par l'alcool, bien sûr. Il a été emporté par l'alcool. Et voilà. En 1981.
Jean-Paul, on vous perd régulièrement. Vous êtes sûr que vous n'avez pas d'oreillette ?
Oui. Non, non, j'ai des écouteurs, hein, je vous assure. Hein. Là, ça va mieux ?
Des écouteurs, c'est la même chose que des oreillettes.
Ah, comment je fais alors ? J'enlève ?
Juste parler dans le téléphone normalement, sans ça ?
D'accord.
Parce que sinon, on vous perd régulièrement, ça bouge trop.
Oui, ok.
Merci.
Un instant.
Je pense que ça va être plus agréable à écouter. Ou pas. Allô ?
Allô ? Allô ?
Oui, Jean-Paul ?
Sabine ?
Oula ! Ça résonne
pas. Vous m'entendez ?
Mais là, vous avez mis les haut-parleurs ?
Non.
Bon, c'est pas possible.
Attendez.
Vous m'entendez, Jean-Paul ? Il suffit juste de mettre de vous servir du téléphone normalement à l'oreille.
Et là ?
Bah, parlez-moi un petit peu.
Vous m'entendez mieux ?
Oui, c'est mieux, on vous entend mieux, merci.
Ah, non, mais parce que moi, il est portable, hein, je ne vous dis pas. Hein.
Oui, j'ai l'impression que vous n'êtes pas copain, là.
Non, non, pas du tout, pas du tout.
Mais au moins, voilà.
Allez, moi, je suis...
C'est plus clair.
Et là, ça va mieux ?
Oui, je vous remercie, c'est plus facile de vous entendre comme ça.
Je suis désolé hein, pour...
Non, c'est pas grave.
Pour ce petit malentendu.
C'est quand même plus agréable de pouvoir s'entendre. Donc, vous me disiez qu'à chaque fois que votre père commençait quelque chose, une soirée à peu près normale, dès qu'il était imbibé, que si je puis dire, c'était l'enfer pour tout le monde.
C'était l'enfer.
Et que ça l'a amené à sa propre mort, en fait.
Comment ?
Ça l'a amené à sa propre mort.
Oui. Oui, parce que il était fils unique aussi. Son père s'est pas occupé de lui, etc. Donc, voilà.
Alors, dites-moi, bon, Jean-Paul, qui est Chiquita ?
Ah, Chiquita, c'est ma chienne. C'est ma chienne.
Vous savez comment je le sais ?
Comment ?
Est-ce que vous savez comment je le sais ?
Comment vous faites ? C'est-à-dire, je n'ai pas compris.
Comment je le sais que vous avez...
Ah ! Oui, par Olivier.
Mais là, il n'est pas avec moi, Olivier.
Ou par Oscar.
Non, non.
Par Oscar, alors.
Non, parce qu'il y a Jeanne qui vient nous envoyer un petit message en disant « Salut Jean-Paul, l'ami voyageur à vélo. Malgré
oui, c'est moi.
Donnez-nous de vos nouvelles et des nouvelles de Chiquita. » Voilà, c'est Jeanne.
Oui,
c'est Jeanne
elle va très bien.
C'est Jeanne qui envoie un petit mot.
Ah, qu'est-ce que c'est gentil. Ah, Chiquita, c'est plus qu'une chienne. C'est, je ne peux pas expliquer Chiquita ce que ça représente pour moi. Elle est avec moi 24 heures sur 24. C'est tout pour moi. Mais c'est tout pour moi.
Je comprends tout à fait.
Si on va aborder le sujet, ça va plus arrêter. Hein, je préfère. C'est incroyable. C'est incroyable ce chien. C'est incroyable.
C'est pas un chien, c'est une personne.
Oui, c'est une personne. Mmh. Exactement. Ça fait partie de moi. C'est comment vous expliquer. Je peux pas expliquer.
Non, c'est pas la peine, je comprends. Jean-Paul, on marque une courte pause et on reprend cette conversation tout de suite. Merci.
Merci, merci.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Jean-Paul.
Oui.
Alors, d'après ce que m'a résumé Oscar, en fait, c'est une chienne que vous êtes allée adopter à l'autre bout du monde.
Non, je ne l'ai pas adoptée, je l'ai trouvée.
Oui, mais vous l'avez gardée avec vous.
Ah oui, c'est une chienne qui vient d'Argentine et que j'ai trouvé en train de laisser un sachet dans la nature. Et je pense que en Argentine, vous le savez, il y a beaucoup de chiens errants, c'est-à-dire ils vous courent. Et je l'ai vu comme ça au détour d'un chemin dans la Pampa. Et quand je l'ai vu, je n'ai pas trop prêté attention parce qu'il n'était pas question que je prenne un chien. Je n'ai jamais eu de chien de ma vie. J'aime les animaux, mais je n'en ai jamais eu. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis revenue vers elle et puis je n'ai pas réfléchi. Je l'ai embarqué sur le vélo. Voilà l'histoire de Chiquita.
Et aujourd'hui, comment vous faites avec elle quand vous partez en vélo?
Ah, mais je l'emmène.
Ah ouais, vous l'installez où?
Ah, mais je l'ai éduquée de telle manière que j'ai une petite remorque à l'arrière, vous voyez, et je l'ai éduquée pour qu'elle court ou qu'elle marche à côté du vélo, vous voyez.
D'accord. Et quand elle est fatiguée, elle va dans la remorque?
Elle va dans la remorque, mais elle n'est jamais fatiguée, puisque cette chienne, elle court tous les jours, elle va avec moi. Là, je viens de la rentrée il n'y a pas longtemps. On fait entre 20 et 25 kilomètres tous les jours, vous voyez. D'accord. Et puis, cette chienne, elle a comme c'est une chienne que j'ai trouvée, donc elle a pas, c'est pas une chienne de race, c'est une chienne qui a du, je pense, qui a du lévrier. Et puis la tête, je ne sais pas trop ce que c'est, mais, mais elle est super sympa.
Ouais, c'est une belle compagnie en tout cas pour vous. Donc Jean-Paul, si j'ai bien compris, vous m'avez appelé pour me dire que depuis que votre maman est décédée,
oui.
Il y a des choses qui coincent un peu chez vous, j'ai l'impression, c'est ça?
Oui, il y a des choses qui coincent, c'est-à-dire il y a des choses qui remontent à la surface de mon enfance. C'est-à-dire, quand j'avais 18 ans, ma mère m'a dit, écoute, je ne sais pas pourquoi elle m'avait dit ça d'ailleurs, tu ressembles pas à tes frères, tu es différent. Elle m'a dit, il se pourrait que ton père, ce n'est pas ton père.
Ah, il se pourrait, c'est curieux comme façon de dire. Parce qu'elle devait le savoir forcément.
Mais je sais pas. Et puis, d'un coup, je me suis effondré. Effectivement, je me suis effondré, mais je sais pas pourquoi. J'avais pas vraiment mon père dans le cœur. Hein. Mais je sais pas, j'ai commencé à pleurer. Et depuis, à ce moment-là, elle n'a plus jamais reparlé de ça.
Mmh. Oui, mais elle avait lâché le morceau, quand même.
Elle avait lâché le morceau. Mmh. Et j'ai su, parce que, vous savez, tout est tabou. Dans cette famille, on communiquait pas. Communiquer jamais. Mais j'ai su par la suite que ma mère était en instant de divorce à l'époque, parce que mon père, il avait souvent des relations avec d'autres femmes. Et il était avec une personne et qui était enceinte. À ce moment-là, ma mère avait l'intention de
partir.
De divorcer, ouais. Oui. Mais elle avait déjà 7 gosses, donc moi je suis le dernier, je suis le benjamin. Et elle s'est remise avec mon père, enfin, oui, moi je dis mon père, et parce que l'aîné avait dit à ma mère, écoute, il faut que papa revienne. Il l'a écouté. D'après ce que j'ai entendu, d'après ce qu'on m'a dit. Hein.
Et vous pensez que dans l'intervalle, il y aurait eu quelqu'un d'autre?
Elle m'a dit, oui. Elle m'avait dit hein, ça. Elle m'avait dit, elle avait. Parce que quand elle était en instance de divorce, c'était en 19. Donc je suis né en 56. Et j'ai une demi-sœur qui est de cette personne où mon père qui était enceinte. Mm-hmm. Et l'aîné est aussi né en 56. Donc je me suis dit, il s'est peut-être passé quelque chose à ce moment-là.
Ça correspondrait. Et vous n'en avez plus jamais parlé avec votre maman jusqu'à son décès?
J'ai plus osé. Ah. J'ai plus osé.
Donc il y a un gros secret de famille, là.
Il y a un gros... Mais il y a toujours eu des gros secrets de famille, chez nous. Et non, mais ça... J'ai pensé souvent. Mais ces derniers temps, après le décès de ma mère, bah, bizarrement, tout... Il y a plein de choses qui est remonté en surface. Et surtout, je me suis posé la question, mais je suis qui?
Oui, bien sûr.
Je viens d'où? Et voilà.
Mais vous dites, dites bizarrement, Jean-Paul, moi je trouve pas ça bizarre, vous savez, quand on perd son père ou sa mère, c'est toujours un moment où on se pose justement, où on fait un pas de côté, où on réfléchit à ce qu'on a été, d'où on vient, qui on est, où on va.
Oui.
C'est assez normal quand on perd quelqu'un de très proche comme ça.
Mm-hmm.
Et puis surtout, on avance d'un cran dans la hiérarchie de la famille.
Oui.
Et c'est tout à fait logique de se poser plein de questions, surtout quand on sait, comme vous, qu'il y a des grandes zones d'ombre.
Mm-hmm. Ah, j'en ai beaucoup.
Mais est-ce qu'il y a quelqu'un susceptible de répondre à ces questions? Un oncle, une tante, des gens qui pourraient savoir ou avoir su?
Des tantes, des oncles,
oui.
Mais ils ne sont jamais venus chez nous. Mon père, c'était quelqu'un qui était invivable. Je ne connais même pas mes oncles, je ne connais personne. Ils ne sont jamais venus. Ils ne sont jamais venus. Quand il y avait même au mariage... Il était capable de s'alcooliser et d'être grossier.
Mm.
Je ne sais pas si vous avez vu le film de Claude Chabrol, Que la bête meurt.
Non.
C'était avec Jean-Yann.
Mm-hmm.
Ah ben ça, c'était mon père.
Oui. Mais sans avoir vu le film, j'imagine assez bien ce que vous avez vécu. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Puisque si personne ne peut vous donner de réponse sur vos origines...
J'avais pensé à une analyse de...
L'ADN?
Vous savez, oui.
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 Mmh.
Mais j'avais entendu que c'était possible de pouvoir un petit peu savoir quels sont mes ancêtres.
Oui, ça se fait sur Internet. Je crois qu'il y a 8 ou 9 sites dans le monde.
Oui, oui, je pense que j'ai un petit peu regardé.
Oui.
Et j'ai vu qu'il y a des laboratoires suisses et c'est susceptible de faire des analyses.
Mm-hmm.
Et ça serait une piste que je pourrais... mais pour faire ça, il faudrait aussi qu'une de mes demi-sœurs ou sœurs fasse le test aussi, sinon je ne saurais pas, non?
Ça dépend si votre père biologique l'a fait aussi, si ça se croise dans les fichiers.
C'est qui?
Votre père biologique, celui qui serait votre père en fait.
Oui.
S'il a fait la même chose, s'il a enregistré dans un fichier son ADN, ça pourrait se croiser...
Ah, je pense pas.
Bah, on sait jamais, vous savez.
Ah bon?
Bah, on ne sait pas. Si, puisque vous avez envie de le faire, il a peut-être fait aussi de son côté, on n'en sait rien. Ou d'autres enfants de ce même monsieur.
Non, non, vous savez, mais je ne pense pas, mes frères et sœurs.
Je ne parle pas de vos frères et sœurs, mais si votre père est quelqu'un qui est passé dans la vie de votre mère, vous avez le même ADN que lui, en tout cas vous avez en partie...
Oui, voilà. Complètement.
Mais ça veut dire aussi que s'il a fait d'autres enfants... Vous avez potentiellement des demi-frères et des demi-sœurs ailleurs.
Oui.
Et là,
oui, mais
oui.
Je ne les connais pas.
Je sais bien, mais là, ça peut se croiser sur des fichiers. Si eux aussi ont rentré leurs données, peut-être que vous pourrez récupérer leurs coordonnées.
Oui, mais là, il faudrait déjà que j'ai leur adresse, mais moi, je ne sais même pas comment elle s'appelle, ma demi-sœur, je ne sais rien du tout. Tout était caché chez nous. On connaissait personne. Ouais. Ni ma tante, jamais vu moi. Tout le monde fouillait.
Okay.
Tout le monde fouillait.
Mais Jean-Paul, qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui si vous trouviez des preuves?
Je saurais qui je suis, je saurais d'où je viens. Et je pense que ça pourrait m'aider pour avancer. C'est ce que je pense. Ça, c'est moi qui pense ça. Parce que pourquoi maintenant ça revient? Pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense constamment à mon enfance?
Mais parce que la seule personne qui aurait pu vous répondre est décédée.
Mais ma mère, elle-même, on n'a pas parlé de son enfance. Moi, j'étais curieux. Moi, je voulais savoir. Elle m'a jamais parlé.
Mmh.
Oui. Et mon père encore moins.
Mais ce qui m'ennuie un peu là dans votre récit, Jean-Paul, c'est que vous me dites,
oui.
Ça me bloque de pas savoir. Mais ça veut dire que si vous ne savez jamais, qu'est-ce qui va se passer pour vous?
Mais je sais pas. Peut-être rien.
Il faut arriver à vous motiver et à avancer et à partir. Si j'ai bien compris, vous avez envie de repartir en vélo pour longtemps.
Oui.
Là.
Oui.
Et il faudrait pas que longtemps, faudrait pas que ça vous bloque cette histoire, parce que si vous n'avez pas la réponse, vous allez rester coincé. Oui.
Est-ce que vous pensez que j'ai besoin d'avoir cette réponse pour partir?
Moi, je pense pas.
Ou c'est quelque chose ou non?
Tant mieux, je dirais tant mieux si vous l'avez, mais que ça ne vous empêche pas de partir. Vous l'aurez de toute façon un jour ou pas. Oui. Mais ça doit pas être lié à ce départ et cette volonté d'aller voyager, parce que je crois que c'est votre oxygène, ça.
Oui, c'est. Mais j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin de ça.
Et je crois que Chiquita et vous avez tous les deux besoin de ça et qu'il faut surtout pas vous en priver maintenant.
Oui.
Après, le reste, c'est en parallèle. Advienne que pourra, je dirais.
Ah, c'est... d'accord. Mais ça peut pas me freiner.
Non.
Ah. Non. D'accord.
Surtout pas. D'accord. Surtout pas.
Non. Non, mais parce que moi, vous savez, Sabine, ça fait 30 ans que je voyage. 30 ans. Et ça fait 4 ans, ou 4 ou 5 ans, quand ma mère, je devais m'occuper, je pouvais pas partir.
Et voilà.
Donc, c'est normal. Non, mais je regrette pas. Je regrette pas. Parce que c'était mon devoir de fils, d'être là pour ma mère.
C'est tout à votre honneur, Jean-Paul. Mais en même temps...
C'est normal. Non, je sais pas. Il n'y a pas d'honneur, là. C'est normal. Ma mère m'a mis au monde... Je lui dois le respect, je lui dois d'être là, c'est normal. Mes frères et sœurs, peut-être pas. Ça les a pas préoccupés. Ils sont même pas jamais venus la voir. Même quand elle était à l'hôpital, je les ai informés. Ils en avaient rien à faire. Rien à faire du tout, hein. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends pas.
Parce que visiblement, dans votre famille, il y a eu beaucoup de conflits, donc chacun se défend comme il peut après. Mais en tout cas, ce qui est important, Jean-Paul, pour vous,
oui.
C'est qu'effectivement, depuis 4 ou 5 ans, vous vivez pour quelqu'un d'autre. Et que là, il est temps de reprendre, c'est pour ça que je vous parlais d'oxygène, de reprendre votre oxygène.
Je vivais pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ?
En vous occupez de votre maman.
Oui, mais c'est... Je veux dire, oui, d'accord, Sabine, mais... je suis en paix avec moi-même. Vous voyez ?
Mais ça, c'est très bien.
Je veux dire, je suis en paix avec moi-même par rapport à ma mère. Vous comprenez ? Parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, le deuil, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. Bon, ça, bien sûr, quand elle est partie, c'est pas quelque chose qui me travaille, quoi. Mais ce qui me travaille maintenant un petit peu, ou ce que moi je pense, peut-être je pense trop. Pourquoi avant, quand je partais, c'était je partais assez rapidement, et pourquoi là j'ai plus de mal à démarrer? Est-ce que c'est parce que ça fait les 4 ans où j'ai rien fait, ou l'âge, etc., fait en sorte que j'ai plus de mal à démarrer, je sais pas. Donc, je me posais ce genre de questions en me disant, mais si je savais d'où je venais, d'où je viens, peut-être ça va m'aider. Mais comme vous dites, ça devrait pas m'empêcher d'avancer ou de partir, puisque c'est mon oxygène, c'est vraiment mon oxygène. C'est vraiment mon oxygène. Donc, ça devrait bien se passer.
Mais j'en suis persuadée. Je pense qu'il vous manque juste un petit élan. J'espère vous le donner ce soir.
Oui, c'est ça. Hein,
j'espère vous le donner ce soir, parce que vraiment, je pense que Chiquita, elle attend que ça maintenant.
Moi encore plus qu'elle. Moi encore plus qu'elle. Vous savez... je suis quelqu'un qui a, pour moi, le voyage c'est les rencontres avant tout, hein. Si je rencontre personne, si j'ai pas de rencontre, si je vois pas les personnes, le voyage n'a pas sa saveur. La saveur, c'est les rencontres. C'est ça qui me fait avancer, et les gens, les personnes que je rencontre. Je suis toujours dehors, j'aime les gens, c'est mon oxygène.
Oui.
Et c'est pour ça que Oui.
Non, je pense effectivement que le fait d'être resté comme ça sans bouger pendant 3-4 ans, c'est un peu plus difficile qu'avant de reprendre cet élan-là. C'est juste ça.
C'est juste ça. Et une fois que j'ai mis le pied à l'étrier, ça, je pense que ça va être bon.
Ça vous fera beaucoup de bien.
Oui. Je le pense vraiment aussi. Je le pense vraiment aussi. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous téléphoner pour avoir un peu vos lumières.
Oh, c'est pas une lumière, c'est juste un peu de bon sens, ça, Jean-Paul. Mais
je vous écoute tous les soirs et vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait. Et chaque fois que je vous écoute, ça me redonne le courage.
C'est gentil.
Chaque fois.
Alors, je vais vous envoyer plein de courage et de bonnes ondes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter, mais vous ne raccrochez pas. Je vais vous passer Oscar qui me dit qu'il y a quelqu'un au téléphone pour vous. Je sais pas qui ni pourquoi, mais en tout cas, Oscar me dit qu'il y a quelqu'un qui est appelé pour vous.
Oui.
Donc voilà, ne raccrochez pas et Oscar va vous passer, vous dire qui c'est. Et voilà, j'en sais pas plus que vous pour l'instant.
Oui, Sabine, est-ce que je peux encore parler deux secondes ?
Dites-moi.
Oui, quand je vais partir, je vais partir en vélo, vous voyez. Et quand je pars en vélo, je suis quelqu'un qui aime par-dessus tout camper.
Oui.
Vous voyez, j'aime me poser sous la tente. Je ne cherche que ça. Et comme je vais d'abord faire toute la France, je me permets de demander est-ce que y aurait des gens quand je m'arrêterai susceptibles de pouvoir poser ma tente parce que vous savez j'ai un chien et je peux pas aller
n'importe où.
Non, je peux pas, les chiens sont interdits partout.
D'accord. Donc vous cherchez des gens susceptibles de vous ouvrir leur jardin, leur pré pour que vous puissiez camper.
Juste poser, pas rentrer, je veux pas être à l'intérieur, je veux pas poser de problème, juste poser ma tente, s'ils ont un morceau de terrain, un jardin, etc. Et toujours discrètement, toujours avec beaucoup de bienveillance. Je suis quelqu'un de très ouvert, de très agréable. Enfin, je veux pas me lancer des fleurs, mais je suis quelqu'un qui...
Alors, Jean-Paul, on va lancer l'appel, mais dans quelle région, par exemple ? Parce que c'est un peu vaste comme demande.
Ah, mais...
Est-ce que vous avez un parcours défini ? Vous commencez par où ?
Oui, bah, je vous explique. En fin de compte, Sabine, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers la mer. Vous voyez ?
Jean-Paul, on doit faire une courte pause à nouveau. Et vous me résumez votre chemin juste après pour qu'on puisse cibler votre demande ce soir.
Qu'est-ce que c'est gentil.
Ne bougez
Merci
pas.
Merci beaucoup, Sabine. Merci.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21, 75 centimes, plus coût du SMS.
Jean-Paul, vous êtes là ?
Oui, suis là, Sabine.
Alors dites-moi juste rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens derrière qui attendent aussi de s'exprimer ce soir, quel va être votre parcours et dans quelle région vous aimeriez qu'on vous accueille ?
Alors, moi, je pense qu'aller vers l'océan Atlantique, et je peux descendre jusque, vous savez, la Méditerranée. Non, pas la Méditerranée. Donc, jusqu'à Bayonne, Bordeaux, etc. Parce que ce que j'aimerais faire, j'aimerais aussi trouver quelqu'un qui est susceptible. Alors ça, c'est entre guillemets, hein, un bateau. Vous voyez, ou un voilier, ou quelqu'un qui pourrait aller vers l'Amérique du Sud.
Et qui pourrait vous amener avec Chiquita.
Et qui pourrait m'emmener avec Chiquita, parce que là, c'est le même problème. J'ai demandé des compagnies, etc., mais tous m'ont dit, on ne peut pas emmener un chien. Mais je sais que des particuliers, et c'est possible que si quelqu'un veut être... a envie d'avoir un compagnon ou quelqu'un qui pourrait l'aider, etc. Moyennant même une petite finance, je suis prêt. Non. Mais que je puisse emmener Chiquita et mon vélo. Parce que mon vélo cause aussi un problème aux compagnies. Beaucoup ne veulent pas prendre ni le chien, ni le vélo. Encore moins quand vous avez, par exemple, parce que moi je vais prendre un vélo électrique.
Non, Jean-Paul, on va s'arrêter là.
Oui.
L'appel est lancé. Je vous promets qu'on vous transmettra les téléphones des gens qui pourraient, petit un, vous accueillir dans leur jardin, petit deux, ça serait formidable, vous amener sur le bateau. Mais surtout maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'allez pas raccrocher. Parce qu'il y a,
il y a
quelqu'un
pas.
Qui vous a connu il y a longtemps, qui aimerait reprendre contact avec vous et qui attend votre appel, qui attend de vous parler au standard avec Oscar.
Mais il n'y a pas de problème. Donc je reste en contact. Et avant que vous raccrochiez, je vous remercie mille fois.
Avec grand plaisir.
Mille fois. et surtout votre émission. Et surtout, c'est une vraie thérapie pour moi. Croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Je l'écoutais quand, croyez-moi, ça m'a beaucoup aidé pour soutenir aussi ma mère. Sans la libre antenne, sans même que j'ai écouté aussi, Caroline Deblanche, je peux vous garantir, ça a été un soutien de chaque instant, tous les jours. Tous les jours, ça m'a aidé.
Merci beaucoup.
Tous les jours. Sans vous, je ne sais pas si j'aurais pu faire tout ça.
Merci. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et c'est Guirec que j'accueille maintenant. Bonsoir, Guirec.
Oui, bonsoir. J'avais dit à la personne, c'est pas mon prénom, mais c'est pas grave. On va essayer de le changer, pas de le dire tout le temps. Donc, on va dire, je m'appelle Al, c'est mieux.
Attendez, pardonnez-moi, je vous entends très très mal à nouveau, là. J'ai pas tout compris.
Vous m'entendez, là ?
Oui, allez-y.
Vous m'entendez ? Je voulais pas donner mon prénom, en fait, mais c'est pas grave.
Ah, ça n'a pas été dit, je suis désolée.
C'est pas grave. On va le changer parce que... On va dire que je m'appelle Al, vous m'avez entendu ?
Al ?
Ouais, c'est mieux. D'accord. Alors, moi, je vous dis bonne année déjà.
Merci, vous aussi.
Et puis, je vous remercie de faire cette émission-là. Moi, j'ai découvert ça comme ça par hasard il y a 3-4 mois. Et ça m'a fait un petit déclic sur certaines choses. Alors, je voulais aussi vous parler, je vais à votre antenne pour vous parler de mes enfants. Donc, moi, j'ai 6 enfants.
6 ?
Avec 3 femmes différentes. Oui, mais avec 3 femmes différentes.
Ah.
On est en 2020.
Non, c'est pas ça, c'est que j'imagine l'organisation. En fait, je suis en train de me dire, ça doit pas être.
Il n'y a
ça
pas
doit
d'organisation.
Être, c'est ça, ça doit pas être simple à chaque fête.
Non, mais là, je suis enfin, moi, mon dernier des 6 ans. Et donc, j'ai la trentaine.
Excusez-moi, pardon Al, mais le son est vraiment pas bon. Là, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous avez un téléphone portable normal ?
Normal, ouais.
Pas d'oreillette ? Pas de haut-parleur ?
Pas d'oreillette, non. Pas de haut-parleur.
Alors, je sais pas. Essayez peut-être de parler un petit peu plus loin du combiné.
Et comme ça, ça vous va ?
Ça a l'air plus clair, oui.
D'accord.
Donc, j'en suis restée à 6 enfants, 3 femmes.
3 femmes, voilà. Donc, 3 divorces.
Ouais.
Et donc, mon dernier, il a 18 ans.
18 ans, d'accord. Et le premier, l'aîné ?
La trentaine.
Ok.
La trentaine, ouais. Et donc, c'est... Donc, moi, juste pour situer le contexte, donc moi, je suis moitié-moitié, donc je suis moitié breton et moitié algérien. Les femmes avec qui j'étais, deux françaises, dont... avec une religion
je suis désolée Al, mais la communication est tellement mauvaise que je n'entends pas ce que vous me dites. Et je pense que les gens qui nous écoutent, ça va être encore pire, on ne comprend pas.
Vous m'entendez là ?
Est-ce qu'il y a un autre numéro sur lequel on peut vous rappeler ?
Là, c'est sur le même portable, j'ai deux numéros sur le même portable.
Donc ça va pas être... Mais là, ça marche bien, c'est quand même bizarre.
Ah, je sais pas du tout, j'ai pas bougé.
Bon, bah écoutez, on va essayer de continuer.
Je suis peut-être un peu loin,
Là, c'est parfait, ça a complètement changé. Bon, les méandres des communications téléphoniques. Donc vous me disiez deux femmes sur les 3, deux femmes françaises.
Deux femmes françaises de confession différente, c'est-à-dire une de confession juive, qui est, on peut dire qu'est athée, mais on va dire catholique de naissance. Mm-hmm. Et une Allemande on va dire ça dépend, pour vous situer les choses. Donc actuellement, moi je les vois plus du tout. J'ai mon dernier fils, a arrêté de communiquer avec moi il y a à peu près un mois. Et les autres, j'ai plus du tout de nouvelles. J'ai leur numéro de téléphone, ils ne me répondent plus du tout. Alors, la situation, elle est comme ça depuis un petit moment. Donc, moi, je cours. Donc j'ai bien sûr eu des gares partagées. J'ai eu cette chance-là. Donc, je me suis vachement accroché à être présent.
C'est-à-dire week-end et la moitié des vacances ?
Non. Moi, j'avais mardi soir, mercredi soir, et vendredi et les week-ends, et vendredi, samedi, dimanche. Tous les 15 jours, vous voyez à peu près. Enfin, c'était une méthode.
D'accord. Donc vous étiez vraiment présent?
Oh, moi j'étais présent et combattant, parce que j'appelle ça un combat. J'ai pas eu des... leur maman était très compliquée avec moi, et plus, bien sûr, l'enchaînement des enfants, des femmes différentes, c'est encore plus compliqué pour moi. Bon, ça m'a coûté... j'ai eu la chance d'avoir des sociétés. Donc, j'ai pu assumer par mon travail. Mais en face, j'avais des femmes. En plus, j'étais marié avec, bien sûr. C'est la malchance, ou la chance, je ne sais rien du tout. Avec deux avocates et une architecte. Comme ça, il n'y a plus de problème. Et donc, j'ai vraiment calé. Maintenant, ce que je vois, c'est que j'ai plus du tout de contact avec mes enfants, puisque pour eux, je conviens pas, je suis trop présent, pas assez présent. Qu'est-ce que je veux dire ?
Mais pourquoi d'un seul coup ? C'est ça que je trouve bizarre.
Bah, d'un seul coup, disons avec les derniers, c'est d'un seul coup, parce que les aînés, ça fait un petit moment. Les aînés, ça fait 3-4 ans déjà, oui, que je ne les vois plus. Ils se connaissent. J'ai tenté de les réunir à plusieurs reprises quand ils étaient plus petits. Ça a été une catastrophe pour moi, avec des procès par leur mère.
Pourquoi ? Ce sont quand même des demi-frères et demi-sœurs ?
Bah, moi, c'est ce que je pensais naïvement, mais... moi, les femmes, en tout cas, avec qui j'étais, c'était pas du tout ça. Pas du tout ça.
Qu'est-ce qu'elles auraient voulu, qu'il n'y ait aucun contact entre eux ?
Qu'il n'y ait pas de contact, toi. Qu'il n'y ait pas de contact.
C'est surprenant. Moi, c'est... Les enfants n'ont rien à voir avec les conflits d'adultes. Hein.
Ça, c'est la logique. Mmh. Mais les faits, c'est pas ça du tout. Je savais très bien que... c'est rare quand même qu'une séparation se passe bien. En nous, nous, on vit. Les séparations se passent très très mal.
Ça dépend.
Enfin, autour de moi, je...
On va poursuivre cette conversation juste après les infos, si vous permettez. Allons, on marque une courte pause.
Très bien.
J'espère qu'on vous entendra un petit peu mieux quand même, et on reprend ce dialogue dans un court instant.
Là, vous m'entendez, là ?
Oui, ne bougez plus, à tout de suite.
Très bien.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1. Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Ça veut dire qu'il nous reste une petite heure à passer ensemble et en direct sur cette libre antenne. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler si vous souhaitez prendre la parole ce soir. Un seul numéro de téléphone à composer, le 3921. Hassan et Oscar vous attendent de l'autre côté au standard d'Europe 1. Pour participer par SMS, vous faites le 73921 en commençant par le mot nuit. Et par mail, je vous rappelle notre adresse, libreantenne en un seul mot, @europe1.fr.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et avant de récupérer Al, je tenais à vous dire que vous avez été très nombreux à être touchés par le témoignage de Jean-Paul. On a reçu beaucoup de SMS. Je vais en partager quelques-uns avec vous, même s'ils ne sont pas tous signés. On a quelqu'un qui nous dit « La question des origines est certes importante pour savoir d'où l'on vient, mais ça ne définira jamais qui vous êtes. Vous êtes une personne à part entière, Jean-Paul. » Quelqu'un qui nous dit aussi « Est-ce qu'en partant sur les routes, il ne part pas à la recherche de lui-même ?» Jeanne qui lui dit qu'il est le bienvenu du côté de Bordeaux, elle est prête à l'accueillir. Et puis Eliane qui nous fait une très jolie petite phrase avec un point d'interrogation. « Jean-Paul va-t-il vers la mer M-E-R ou vers la mer M-E-R-E ?» Merci Eliane. Al, vous êtes là ?
Et vous ?
J'avais un doute sur le prénom, j'ai failli buter, c'est pour ça que j'ai...
Très bien.
J'ai une hésitation. Vous aussi un peu le tableau d'une famille recomposée et décomposée, si je puis dire ?
Avec... Recomposée, non, composée, on va dire, dans le sens où, de toute façon, Moi, les divorces, c'est pas moi qui les ai voulu, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, voilà, après, on fait sa vie, on la continue, et on fait comme le sent. Enfin, moi, je le vois comme ça. Bon, par contre, il y a les enfants.
Voilà, au milieu de tout ça, il y a 6 enfants, quand même.
Il y a 6 enfants. Et je vous regarderai la cerise vers la fin de notre communication. Par contre, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop buté sur tout ce qui était justice et les mamans. Et la famille des mamans. Ça a été très, 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 très dur pour moi. Humainement, financièrement, etc. J'ai 52 ans. Le seul but là-dedans, c'était de garder contact avec les enfants pour qu'ils évoluent, puisque j'ai eu la malchance de me séparer quand ils étaient pratiquement bébés, c'est-à-dire entre un an et maximum 27 mois, oui, c'est petit. Donc, pratiquement, c'est des enfants qui n'ont jamais vu leurs parents ensemble, que ce soit les 3 fois. Par contre, j'ai toujours collé, fait le pied de rue dans les immeubles. Je suis parisien, j'habitais à Paris, mais pas moi aussi qui était. Mes enfants sont des parisiens. Bon, maintenant, ils sont plus grands, ils vivent à droite, à gauche. Et c'était vraiment très difficile, même avec les juges, etc. C'était vraiment très difficile. La seule chose que j'ai maintenue, c'est le lien, pour pas que ça parte dans tous les sens. Oui. Et de leur donner au moins une structure, une base, etc. Et bien sûr, une protection, puisque enfin, moi, je le vois comme ça.
Quand vous dites le lien avec vos enfants, est-ce qu'il y avait un vrai dialogue à chaque fois?
Ben, vous savez, je vais vous dire franchement, apparemment, je communique beaucoup. Je suis quelqu'un qui a pas de tabou sur beaucoup de choses, oui ou pas. Je parle de mes enfants, hein. Donc je parle de tout, de rien, de beaucoup de choses profondes, pas profondes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais quand même aller, même par rapport à leur âge, puisque moi j'ai été éduqué plus ou moins comme ça. Donc je trouve que c'était intéressant. Donc j'ai continué la même chose au niveau, bien sûr, par rapport aux années. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'ils m'en veulent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est-à-dire, que ce soit les aînés ou que ce soit les petits, quand même 18 ans maintenant, 18 ans et demi, en fait, c'est le fait de, par exemple, on peut créer un lien au niveau du téléphone, parler, rentrer dans les détails, etc. Et d'un seul coup, c'est la punition. Enfin, pour moi, c'est de plus communiquer avec moi pendant 3, 4, 5, 6 mois. Vous voyez ce qu'il veut dire?
Mais est-ce qu'ils vous disent pourquoi?
Non. Non. Et alors, moi, ça m'a beaucoup perturbé, bien sûr, puisque je reste des fois, vous voyez ce qu'il veut dire? Vous avez c'est plusieurs organisations différentes. Alors, quand j'étais petit, moi, je pensais qu'en grandissant, ça allait s'améliorer. Moi, ça a été à l'inverse. Ça a été très compliqué. Je ne pouvais pas. En plus, moi, j'étais chef d'entreprise dans le bâtiment. Donc, vous voyez, attendre. Ils n'habitaient pas tous au même endroit, etc., pour les surveiller, etc., etc. C'était compliqué pour moi. La seule chose qui m'a fait tenir, c'était vraiment pas d'après ce que j'ai analysé, c'était vraiment parce que c'était le papa qui faisait peur, oui, plus ou moins. Enfin, je vois ça par rapport à mes garçons, oui. C'est-à-dire, c'était plus la peur qu'autre chose. C'est-à-dire la peur de tomber sur moi, ou par exemple pour les cigarettes, ou pour les sorties, etc. Je pense que c'est ça. Mais moi, je pense que c'est plus la peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait des études, enfin, ils ont monté, je ne connais pas les résultats, mais en tout cas, ils ont tous eu le bac, ils ont tous été à l'université d'ailleurs, etc. À part le dernier là, qui repasse son bac cette année, parce que bon, j'ai eu des petits soucis. Bref, donc apparemment, c'est d'après lui.
Pardonnez-moi, je vais être obligée de vous recadrer un petit peu, parce que je ne comprends pas où vous voulez en venir.
Bah, moi actuellement, par exemple, vous voyez ce que je pour ma santé mentale en tout cas, j'ai décidé de couper directement avec eux, parce qu'avant j'envoyais un petit mot, un SMS, un machin, par exemple, la téléphone, etc. J'ai passé pratiquement un mois à envoyer des mots et ça m'a beaucoup perturbé. Et sur l'antenne aussi, j'ai entendu certaines choses, etc., etc. Et je pensais, c'est pour ça que j'interviens, que en fait toute la base de séparation, c'est pas chez le juge, en fait. Et ensuite, chez le juge, il n'y a plus de suivi du tout. Et en fait, chacun fait ce qu'il veut. Et vu que, en règle générale, c'est la maman qui la garde, elle fait plus ou moins ce qu'elle veut. Et alors, soit vous arrêtez de les voir dès qu'ils sont petits, etc., parce que ça vous fait trop mal, et bon, bref, ça ne fonctionne pas. Ou soit vous faites comme moi, et vous souffrez pendant 20, 25 ans, jusqu'à temps qu'ils sont adultes. Et moi, dans le résultat des courses à la fin, je les vois pas. C'est-à-dire que j'ai plus de contact avec eux pour l'instant.
Mais,
mais ils n'ont pas d'enfants encore.
Oui, déjà, il y a ça, mais aujourd'hui, ce sont des adultes, quoi. C'est surtout ça. Même le petit dernier, comme vous dites, il est quand même quasiment majeur.
Ouais.
Le plus grand à la trentaine, ils ne sont pas influencés par leur maman à cet âge-là.
Ils ne sont pas influencés, mais bon, c'est des mamans qui ont des familles assez solides. Vous voyez, ils ont un bon entourage. Le mien, il n'est pas très intéressant au niveau de ma famille. Mm-hmm. C'est pas assez. En face de moi, j'ai des familles avec des mamans, des papas, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, etc. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc c'est structuré. Moi, de mon côté, quoi.
C'est structuré plus ou moins, même s'il y a une séparation. Donc ça me donne quand même un format. Moi, de mon côté, il n'y a pas tout ça.
Il y a un socle, il y a un vrai socle familial pour eux de l'autre côté. Ouais.
Très important. Mm-hmm. Alors que de mon côté, il n'y en a pratiquement pas. Oui, j'ai pas de. J'ai des sœurs, mais on se côtoie pratiquement pas. Moi-même, on a eu déjà des problèmes de séparation très jeunes, avec bien sûr un enlèvement. J'ai vécu 10 ans en Algérie avec mes sœurs, sans ma mère et sans mon père, puisqu'il était ici. Et donc, on n'a pas de lien, très important, dans le sens où il y a déjà eu des problèmes à la base. Donc c'est très facile pour les familles en face de quand c'est pas l'oncle c'est la tante, quand c'est pas la tante c'est la grande tante, quand c'est, vous voyez, il y a toujours quelqu'un en fait qui peut être présent, qui peut entourer mes enfants. Oui, moi je faisais un peu tout seul, le grand-père, la grand-mère, tante, l'oncle, le cousin, essayer un peu de vanter ma famille, même si mes soeurs ils ont des bons boulots, des bonnes situations, etc., ils sont mariés avec des enfants. Moi-même, j'ai très peu de contact avec eux.
Et donc là, si je comprends bien, vous êtes face à un mur. Il n'y a aucun des six enfants qui ne souhaite communiquer.
Non, j'ai passé un mois de décembre catastrophique à me dire c'est pas grave. Et depuis deux jours, là, j'ai décidé de vraiment d'arrêter puisque ça me prenait vraiment beaucoup de temps à réfléchir dans tous les sens, etc., etc. Alors, je me suis dit, tiens, je vais peut-être appeler, je vous appelle, et me dire peut-être qu'il y a une piste, ou peut-être que c'est peut-être pas le moment, ou peut-être que, moi-même, j'ai changé de région parce que j'ai eu des petits soucis, je me suis un petit peu isolé en Bretagne. Bon, la Bretagne, pourquoi? Ben, c'est comme ça, c'est le destin.
Des petits soucis de quoi?
Des petits soucis, avec ma maman, c'est une autre histoire, donc je ne peux pas rentrer là-dedans.
J'ai déjà du mal à comprendre la première, donc c'est vrai que là, ça devient un petit peu compliqué.
Ouais, mais c'était pour dire simplement que au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus, il n'y a pas trop de solutions. C'est-à-dire, à part faire aller pour se pointer, soit devant l'université ou le domicile de la maman.
Mais ce que j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est que là, il s'agit de six enfants de trois mères différentes, donc il peut y avoir mille raisons. Et il n'y en a pas un seul qui vous donne une explication.
Il fuit. C'est-à-dire que je peux les interpeller, mais quand je dis interpeller, c'est vraiment le mot, quoi. C'est-à-dire que bon, je suis le papa, j'arrive, je parle avec lui, ou s'ils sont deux en même temps, ils sont calmes, posés, etc., il n'y a pas de problème, et puis après, c'est fini, quoi. Si je leur dis, je t'appelle lundi, ils vont me dire oui, ça s'arrête là. Et après, je rame. Voilà. Oui.
Non, je ne vois pas, parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Quand vous m'expliquez quelque chose, ça, je ne sais pas, on ne parle pas la même langue. Mais,
peut-être.
Un dialogue, c'est-à-dire se poser avec un de vos enfants et lui dire, on se prend avec vos enfants, une fois de plus, ceux qui sont adultes.
Mais il n'y a pas de problème quand je fais ça, il n'y a pas de problème.
Ça veut dire quoi, il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il vous explique ce qui se passe? Et pourquoi ils mettent de la distance comme ça?
Il va me dire parce que je sais pas, moi, je suis en cours ou. Où je travaille, j'ai pas eu le temps, il y a toujours une solution pour eux, mais il n'y a pas de j'ai pas envie de répondre, ou j'ai plus envie de te voir, ou...
Donc il n'y a pas de conflit.
Il n'y a pas de conflit, mais le conflit, c'est après, j'ai plus de communication, je suis obligé de refaire des démarches qui sont assez importantes, c'est-à-dire me pointer, vous voyez, bon là en plus je me suis un peu éloigné de Paris, donc c'est loin, donc vous voyez, faire le pied de grue, rester... Moi, j'ai pas. En fait, la base de ce problème-là, bon, moi, j'ai pas de contact avec les mamans, par contre. Aucun.
Il est peut-être là le problème.
Ben, je sais qu'il est là le problème, mais moi, je peux pas. J'ai eu trop de problèmes avec eux, même au niveau de la justice, etc. etc.
Avec eux ou avec elle ?
Avec elle, pour les nommer les trois.
D'accord.
Oui.
Donc, c'est elle. Ouais.
C'est elle. Et. Donc, j'ai déjà trop de problèmes avec ça, au niveau de la justice avec ça, et j'ai été piégé plusieurs fois. Donc, la communication, elle n'existe plus, ça, c'est sûr.
Et oui, mais c'est peut-être là que ça coince avec les enfants. Si vous ne parlez avec aucune des mamans,
vous ne savez pas
ce qui se dit de l'autre côté, quoi.
Il y a ça. Et les connaissants, je sais pas si ça les perturbe pas plus que ça, que je sois pas dans l'entourage des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis qu'ils sont petits, de toute façon. Vous voyez? J'étais juste, je m'accrochais, quoi. Je m'accrochais à, je courais après mes enfants. Donc ça a été ça, la vie, leur vie d'enfant, d'ado, etc.
Mais dites-moi, aujourd'hui, vous avez une vie peu sentimentale? Vous avez quelqu'un?
Sentimental, pas spécialement. Ça veut dire quoi pour vous ?
Bah, est-ce que vous êtes en couple ? Est-ce que vous avez reconstruit une vie avec une nouvelle femme ?
J'ai reconstruit une vie avec une nouvelle femme, mais la nouvelle femme est en Algérie.
Elle quoi, pardon ? J'ai pas compris.
Elle est en Algérie.
Donc vous ne vivez pas avec elle ?
Non.
C'est encore une situation à distance, c'est compliqué ça.
Ouais. Mais
il y a peut-être un dénominateur commun dans tout ça, non ? Dans votre façon de fonctionner.
Bah je fonctionne. On fonctionne comme on peut tous. Mais après, vous faites des rencontres, vous êtes seul, vous faites des rencontres, ça fonctionne. Voilà. Bon, moi, c'est vrai que je me suis toujours posé la question pourquoi je veux me marier. Bon, je sais pas, c'est eux qui veulent se marier, apparemment. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Bon, après, je sais pas. C'est vrai que bon, là, la dernière, c'est loin. Moi, j'habite en France. Bon, je suis un binational. Je parle arabe couramment, comme le français. Bon, c'est un peu loin. C'est une personne que je connais depuis que je suis petit, parce que j'ai vécu là-bas. Bon, je pense que c'était plutôt à la mort de mon père, quand j'ai enterré mon père là-bas. Ça m'a ramené tous les souvenirs et peut-être une erreur, j'en sais rien.
Mais quel est l'intérêt de poser une femme avec qui vous ne vivez pas ?
Je sais pas du tout. Alors ça, c'est un truc... c'est un truc, là, jusqu'à maintenant... Déjà, avec les enfants, j'y arrive pas. Donc, ça a été... C'est une question... Mais c'était pas le problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'était ça. C'était les enfants.
Oui, mais le problème d'aujourd'hui, c'est la manière dont vous fonctionnez.
Après, si je vous explique ma vie, bon, elle est comme tout le monde, ou différente, mais bon, voilà, on vit. Ce que je veux dire,
sérieusement, ma vie, elle est comme tout le monde, elle est différente, mais sérieusement, qu'est-ce que vous voulez que je comprenne à des phrases comme ça ? Depuis tout à l'heure, vous enchaînez des phrases. Voilà, et ça fait des mots, et au bout du mot, on sait pas où on en est, quoi. Et à part vous voyez ce que je veux dire.
Peut-être.
Non, je vois pas, honnêtement, avec la meilleure volonté. En plus, vous me coupez, je vais pas m'en sortir. Avec la meilleure volonté du monde, non, je vois pas ce que vous voulez me dire, parce que je n'arrive pas à comprendre où vous voulez en arriver.
Bah, la seule solution que j'ai trouvée, enfin, si je peux me permettre de parler comme ça, la seule solution actuellement, c'est d'arrêter d'avoir l'impression d'envoyer des SMS ou de téléphoner à mes enfants. Peut-être c'est peut-être pour ça que ça me perturbe, ou c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à tenir mes phrases ou orienter mes phrases
d'arrêter,
en quelque chose.
D'arrêter d'avoir l'impression d'envoyer des SMS. Rien que cette phrase-là, je suis désolée, mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'arrêter d'avoir l'impression d'envoyer des SMS.
Ben parce que j'ai pas de réponse.
Mais ça veut dire quoi ? Arrêter d'envoyer des SMS ? Arrêter d'attendre une réponse ? Mais arrêter d'avoir
une réponse, arrêter de communiquer. Oui, mais c'est parce que je suis dans le vague.
Ah oui,
je peux
ça
pas être
sert rien de dire.
Ouais, je suis dans le vague. Là, par exemple, je sais pas, j'ai passé un mois à essayer de communiquer. J'ai zéro, donc c'est perturbant. Deux, je cherchais beaucoup comment faire autrement, trouver des alliés, trouver des mes sœurs, trouver des amis, etc. Après, j'ai arrêté, oui.
En fait, si je comprends bien et que j'arrive à résumer, jusqu'à maintenant, votre technique, ça a été un peu de faire du forcing.
C'est ça.
Mais vous êtes super déçu parce que ça ne marche pas et ça vous déçoit et ça vous fatigue. Et vous vous demandez si la solution, ce n'est pas juste de lâcher prise.
Exactement, voilà.
Ok. Exactement,
à peu près ça.
On arrive à quelque chose, ok.
C'est à peu près ça.
Je vais vous faire une réponse très simple, oui. Parce qu'à un moment donné, se taper la tête contre les murs, ça fait mal.
Bah, c'est ce que je fais.
Et oui, mais vous le faites depuis longtemps et ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Ce sont quasiment tous des adultes. Il doit y avoir des tas de morceaux du puzzle que vous n'avez pas, probablement.
Ça, c'est sûr. C'est sûr.
Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure d'important. Vous avez dit qu'aucun d'eux n'a encore d'enfant. Et probablement, le jour où ils en auront, ça change la donne. Parce que le jour où on devient papa ou maman, voit ses parents différemment. On comprend les choses différemment. Et quelquefois, on renoue des contacts qui ont été un peu délaissés.
C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère.
Oui.
Le travail que je fais, par exemple, actuellement, grâce à votre émission d'ailleurs, et tout ce que j'écoute avec les auditeurs, c'est de me dire, est-ce que le jour où, peut-être dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou dans 6 mois, ou dans 10 ans, j'ai un de mes fils qui m'appelle, qui me dit, voilà, je suis papa, est-ce que tu veux venir ? Non, je ne sais pas, je ne connais pas ma réaction, je me fais des signes. Je me dis, c'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous n'allez pas commencer à anticiper un avenir hypothétique.
Vous imaginez?
Non, là, il faut effectivement un peu lâcher prise là-dessus. Vous commencez à vous faire des scénarios d'hypothétiques dialogues de dans 10 ans. Ouais. Vous vous rendez compte?
C'est tout simplement parce que j'ai tellement ruminé. Enfin, là, c'était les fêtes, mais bon, le moment des fêtes, c'est toujours un peu compliqué, ça, c'est vrai. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup ruminé. Mais c'est vrai, faut que j'ache prise là, parce que sinon...
Moi, je pense que la chose la plus intéressante à faire serait de leur faire savoir par SMS, par courrier ou par ce que vous voulez, que la porte est ouverte et que vous les aimez, mais que maintenant... Maintenant, c'est à eux de venir, quoi. C'est bon, ça suffit.
Voilà.
Vous ne pouvez pas vous faire... ça vous fait du mal à chaque fois, donc il faut que ça s'arrête.
C'est beaucoup, parce que vous avez l'impression... Moi, j'ai l'impression d'avoir gâché des choses. Oui.
Il y a beaucoup de conflits dans votre histoire, effectivement. Il y a beaucoup de portes fermées, quoi.
Ouais.
Et c'est l'image que je vous donnais tout à l'heure, c'est que se taper la tête contre une porte fermée, au bout d'un moment, ça sert à rien, ça fait mal.
Ouais. C'est à peu près ça. Les portes sont toutes fermées depuis beaucoup de temps. Et bien sûr, moi, je les ouvre de force.
Oui, mais ça marche pas.
Ça marche pas, je peux vous le garantir.
Est-ce que vous êtes fait, est-ce que vous avez envisagé de faire une thérapie pour essayer de comprendre un peu comment vous fonctionnez?
Une thérapie, moi j'ai des obligations de soins, parce que j'ai eu des petits problèmes, donc je suis suivi par un psy.
Des problèmes de santé ou de comportement?
J'ai eu des petits problèmes d'alcool, en fait, à un moment donné, et avec ma maman. J'ai des petits problèmes, donc je suis suivi, mais bon, ça m'apporte, enfin, j'ai l'impression que ça m'apporte pas grand chose, à part que bon, je parle beaucoup, mon histoire est ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, mais j'ai pas de réponse, franchement. Je vais vous dire, franchement, j'ai plus de réponses quand je vous écoute depuis 3-4 mois, de temps en temps, comme ça me donne une petite piste ou une petite lumière comme ça où je peux travailler moi-même là-dessus en me disant oui, c'est peut-être le seul moyen. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je vous ai appelé.
Mmh.
Et d'ailleurs, je vous remercie de faire cette émission-là. Et je remercie aussi les auditeurs, même si des fois, ça a l'air de rien comme ça. Mais ça donne des pistes, en tout cas à mon niveau.
Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai toujours, l'expérience des uns enrichit les autres.
Ah non, mais c'est plus qu'une vérité, oui. Mais des fois, ça a l'air de rien. Bon, ça a l'air de rien du tout, mais c'est le petit mot, la petite phrase qui fait que... Oui, par exemple, moi, j'ai arrêté de parler avec ma mère, qui a 80 ans, parce que j'écoutais une musique qui était à peu près dans le même plat que moi. Alors, moi, je suis l'aîné d'une fratrie, j'ai trois sœurs. Et je me suis toujours occupé de ma mère, mais elle m'a vraiment pourri la vie. Et là, depuis que je mets des écarts, une passion de faire qui est complètement différente. Et j'ai eu du mal à le faire, mais je l'ai imposé. Et ça fonctionne un peu mieux. Voilà. Grâce à une de vos auditrices.
Mais ça m'ennuie un petit peu que vous me disiez qu'avec votre psy, ça n'avance pas. Ça veut dire que c'est probablement pas la bonne personne pour vous, parce que je pense vraiment qu'il faudrait faire un travail pour comprendre pourquoi vos liens ne tiennent pas. Le lien avec maman n'allait pas, le lien avec les femmes n'allait pas, le lien avec les enfants ne va pas, ne vont pas, tous ces liens-là. Et je pense que le nœud est quelque part à l'intérieur de vous, et que ce serait vraiment intéressant de faire un travail avec quelqu'un qui vous aide à avancer.
Ben, j'ai fait...
Ben non, vous me dites que ben, ça sert à rien, ça marche pas. Enfin, ça n'a pas avancé avec ce psy-là.
Ben, j'ai eu des séparations assez douloureuses qui confinent au commissariat. Donc j'ai eu des obligations de soins depuis à peu près une quinzaine d'années. Vous voyez. Donc j'ai eu des obligations, j'ai regardé, j'ai refait, c'est à part bon, j'ai une vie voilà différente, un peu originale, on va dire, voilà. Bon, l'Algérie, la Bretagne, voilà, le métissage, voilà, je parlais deux langues couramment, plusieurs, vous voyez, mes mariages, et ceci, mais cela, bon, c'est intéressant, mais c'est pas, alors peut-être que l'Algérie, j'ai été marié là-bas pour me prouver des choses, ou peut-être renouer avec quelque chose qui était dans moi, ça fonctionne pas parce que c'était pas ça. Voilà. Oui.
Peut-être.
Là, en ce moment, par exemple, je suis en Bretagne en ce moment, bon, c'est un hasard, hein. Mais j'ai des origines bretonnes, vous voyez ce que je connais la Bretagne, mais pas l'endroit où je suis, par exemple, vous voyez.
Alors, on est en train de repartir dans tous les sens, là.
C'est ça.
Et on va s'arrêter parce que j'ai beaucoup de gens derrière que je n'ai pas eu le temps de prendre et que j'aimerais quand même arriver à écouter ce soir. Réfléchissez ouais. quand même à travailler sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les liens que vous créez, que vous construisez, se détruisent? Où est la souffrance là derrière et comment on peut réparer ça? Et c'est pas moi qui vais le faire évidemment là à l'antenne au téléphone. C'est un travail que vous devriez faire avec un thérapeute en qui vous avez vraiment confiance pour essayer de comprendre ce mode de fonctionnement là.
Bah, mon mode de fonctionnement, je vais finir là-dessus. Mon mode de fonctionnement, c'est que je force. Je fais du forcing. Quand vous faites du forcing, et ben ça fonctionne pas. Point. Oui. Si je dis c'est du forcing que les enfants, c'est du forcing pour ce que je veux, vous voyez ce que je veux dire, je suis quelqu'un d'adapté.
Non, mais là, vous êtes en train d'expliquer la conséquence. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la cause, le pourquoi vous fonctionnez comme ça. Mais c'est déjà bien que vous ayez compris que cette façon de faire ne fonctionne pas et que vous soyez prêt à lâcher prise. À mon avis, c'est déjà un sacré pas en avant.
Bah, là, je suis obligé. Là, je suis obligé. Et puis, je vous dis, j'écoute beaucoup d'auditeurs aussi. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment lâcher parce que sinon. Il n'y a plus de création, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus rien. Enfin, moi, j'ai pas la tête dans le guidon, j'aime pas trop, oui.
En tout cas, mais ce qui est clair, c'est que quand on ne change rien, rien ne change. Et quand on comprend qu'un mode de fonctionnement ne marche pas, ça ne sert à rien de s'acharner et de forcer les choses.
Ça, c'est jamais. Sûr. C'est sûr.
Surtout dans les relations humaines, forcer les choses, ça mène toujours à l'échec.
Tout à fait, je suis d'accord avec
vous. Donc, c'est déjà une compréhension intéressante.
Voilà.
D'accord, Anne?
Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir pris le téléphone. Et puis bah on va essayer de continuer les choses comme ça. En tout cas, moi j'ai découvert cette émission là que je recommande un peu de temps en temps à des gens qui ont l'impression moi je vous avoue franchement avant j'écoutais pas parce que j'avais l'impression que j'étais un peu plus fort que ça, mais en vérité ça m'a beaucoup apporté, et je tenais à vous le dire, et dire aux auditeurs que des fois, même s'ils ont l'impression de dire des petites choses ou des grandes choses, il y a toujours une oreille qui écoute et qui tape ou ça tape. Voilà, si je me fais comprendre.
Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée en tout cas. Et bonne continuation.
Et j'accueille maintenant Catherine sur cette libre antenne. Bonsoir à vous, Catherine.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Merci beaucoup, merci. Sabine, j'aurais besoin de vos conseils, en fait, pour savoir comment il faut que je me comporte avec mon ex-mari pour que ça se passe au mieux pour nos enfants. Mm-hmm. Alors, si vous le permettez, je voulais vous récapituler un peu ma vie.
Bien sûr.
Alors, j'ai 50 ans. Avec mon ex-mari, on s'est rencontrés à 20 ans. On a vécu des très belles choses et avant ça, moi, j'avais eu beaucoup de chance, c'est que j'ai eu une vie avec des parents formidables, donc qui m'ont donné confiance, je dirais, en la vie et qui m'ont dit que dans la vie, il y avait des choses pas faciles, mais que le plus important, c'était de se relever et puis de continuer à avancer. Mm-hmm. Et donc ça m'a pas mal aidée parce que on a vécu quelques moments compliqués avec mon mari, mon ex-mari, notamment le décès brutal de mon père dans un accident de voiture. Et puis 2 ans plus tard, en 2008, le décès de la maman de mon ex-mari. Avant ça, donc on avait vécu des choses formidables, hein, puisqu'on a eu deux chouettes enfants. Et puis, on avait une vie de couple qui était bien, puisqu'on avait, je pense, c'est les mêmes valeurs, et puis on respectait ces valeurs l'un et l'autre. Suite au décès de mon père d'abord, j'étais très encadrée par ma famille, donc ça c'est on a réussi à s'en remettre, à se relever. Pour le décès de la maman de mon ex-mari, ça a été plus compliqué parce que, en fait, je ne m'en suis pas aperçue tout de suite, mais je savais que donc mon ex-mari s'entendait super bien avec sa mère. Elle est très formidable, mais c'était plus compliqué avec son père. Et au décès de ma belle-mère, le jour de son décès, j'ai pas reconnu mon ex-mari, en fait. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup de violence en lui et je pense que j'ai découvert des choses que je n'avais jamais vues en lui avant. Bon, ensuite, on a continué à vivre lui, il s'est jeté un peu à corps perdu pour aider sa sœur, parce que quand sa mère est décédée, sa sœur était en train de se séparer de son compagnon. Donc, il a beaucoup aidé sa sœur pour qu'elle s'en sorte. Mmh. Et puis, 3 ans plus tard, quand il avait réussi à aider bien sa sœur, et que, a priori, tout allait bien, là, il est tombé en dépression, en fait. Alors, on ne s'est pas rendu compte tout de suite que c'était une dépression.
Alors, pardon de vous couper, mais c'est un peu logique. C'est toujours quand on a tenu debout, qu'on s'est battu beaucoup, c'est quand tout va bien que ça lâche.
Ouais,
c'est un peu ça, la dépression, comme son nom l'indique, quand on est sous pression parce qu'il faut tenir, on ne craque pas. Ouais. Et quand les choses commencent à aller mieux, et là, tout s'écroule.
Tout à fait. Mais c'est vrai que moi, j'étais pas, j'avais jamais été confrontée à ça, donc on ne s'est pas rendu compte, en fait, qu'il était au début, que c'était une dépression. Ouais. Et je me souviens, je disais à ma maman, c'est quand tout va bien, finalement, qu'il tombe malade, en fait, et effectivement, avec du recul, je me dis que c'était normal, puisqu'il n'avait plus rien à faire, entre guillemets, enfin, qu'il tenait, et donc tout s'est relâché. Mmh. Donc, ça a été très difficile à vivre, parce que, au début, comme je ne savais pas, en fait, que c'était une dépression, je ne l'étais pas forcément. Donc, on a couru tous les hôpitaux parce qu'il disait j'ai mal là. Il a fait plein de tests et en fait, tout allait bien en fait. Hein, mais lui, il disait mais non, ça va pas. Et donc, moi, je lui disais, mais si, tu vois, tout va bien, donc on continue. Et en fait, je ne l'ai pas du tout aidé. Bon, il s'en est sorti, je ne sais pas si on peut dire qu'il s'en est sorti. Il a été suivi quand même psychologiquement. On lui a donné des médicaments qui l'ont peut-être un peu assommé, je pense. Et puis, ça a duré une année et demie. Il a un peu remonté la pente. Ça a été un peu mieux. Puis ensuite, deux années plus tard, ça a recommencé avec... Il n'était pas bien. Il venait un peu... je voyais qu'il n'était pas bien parce qu'il s'énervait pour tout et je n'arrivais pas à savoir ce qui se passait. On s'est séparés. On était très malheureux. Donc, on a essayé de se remettre ensemble. Et puis, en fait, il y a deux ans... on a décidé de s'arrêter. Il a été en maladie pendant très longtemps et avant qu'on se sépare, il était devenu très violent verbalement, en fait, ce qu'il n'était pas du tout. Il n'avait jamais été, hein, donc je voyais bien qu'il n'était pas bien parce que jamais il avait été violent verbalement, mais bon, il s'en prenait.
C'est souvent l'expression d'une souffrance hein, quand on devient comme ça.
Ouais.
Quand on ne sait pas comment ça, on n'arrive plus à laisser sortir ça. Ça sort n'importe comment et souvent par cette violence verbale.
Voilà, je pense que c'était ça. Hein, de toute manière, alors moi je le gérais très mal parce qu'en fait, pour moi, je me suis toujours dit, il ne faut pas s'énerver parce que j'ai toujours voulu avoir une bonne maîtrise de moi. Et donc, je disais rien, je me disais ça va passer. Et je pense qu'en fait, c'était pire que tout parce qu'il disait, elle ressent rien, en fait.
Bon, vous étiez dans une coquille de protection et lui prenez ça pour l'indifférence.
Ah ouais, complètement, ouais, voilà.
Mais vous étiez physiquement séparés?
Non. Avant qu'on décide de se séparer, non, on vivait donc tous les deux ensemble, enfin même tous les quatre hein, avec les enfants. Mais c'était très lourd parce que il était souvent donc en colère et puis tout allait mal et puis il commençait à devenir méchant en disant des choses pas gentilles sur moi, que j'étais une mauvaise mère. Enfin bon, bref. Et ça m'a énormément touchée. Heureusement, ma maman et ma sœur étaient là pour me remonter le moral. Et finalement, bon, on a décidé de se séparer parce que c'était devenu insupportable. Et un jour, j'ai dit stop, quoi. J'ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça.
Donc qui est parti à ce moment-là, là ?
En fait... Il a poussé un peu le bouchon un peu loin et moi alors que jusqu'à maintenant j'avais toujours rien dit, là j'ai dit stop, ça peut pas continuer comme ça. Et donc il s'est rendu compte qu'il avait été un peu trop loin et donc il a dit bon, on se sépare. Et donc moi j'ai accepté pour éviter que nos enfants pâtissent trop. J'ai accepté d'aller loger ailleurs et pour que lui retrouve une santé parce qu'il était retombé en dépression et donc je voulais pas qu'il reste sans rien, donc il était en arrêt maladie, il avait plus de travail et donc j'ai accepté entre guillemets de lui laisser la maison et puis de dire bon, je vais m'installer un peu ailleurs et puis comme ça les enfants ils iront une semaine chez toi, une semaine chez moi.
D'accord, donc c'est vous qui êtes partie à ce moment-là.
Oui, okay. Oui, parce que pour moi je l'ai aimé pendant 28 ans, enfin même s'il était très compliqué à la fin et ça a été peut-être un soulagement quand même quand on a décidé de se séparer parce que c'était devenu très compliqué.
D'accord.
Et que j'aime pas du tout le conflit. Donc, je me suis dit que c'était la solution pour que les enfants restent quand même dans une maison. Alors, ils sont grands, les enfants. Quand c'est arrivé, les enfants, ils avaient 16 ans et 18 ans. Ils en ont 18 et 20 aujourd'hui. Donc, ils étaient grands, mais jusqu'à maintenant, on a... quand on s'était séparés, on avait décidé de se séparer la première fois, il y a 5 ans à peu près. On l'avait annoncé à nos enfants un jour où ils revenaient de vacances et ça m'a déchiré le cœur, quoi, de voir l'effet que ça avait fait sur mon aîné. Il rentrait de vacances, il était tout heureux et puis on lui a annoncé, enfin, Marie a voulu lui annoncer qu'on se séparait. Ça a été très compliqué pour l'aîné. Le petit, s'en est un peu moins rendu compte.
Et pourtant, l'aîné était assez grand pour comprendre que c'était invivable.
Ouais, mais je pense que moi, comme je cachais beaucoup les choses, j'essayais à chaque fois qu'on se dispute pas devant nos enfants, en fait.
Ah, d'accord. Donc, il n'avait pas peut-être conscience de l'étendue de...
Non.
Des dégâts, quoi.
Non. Non.
D'accord.
Je voulais jamais... En fait, moi, je suis... Comme je le disais, ça va passer. Et je sais, hein, que j'avais tort, parce que peut-être que si on avait vraiment parlé, ça aurait changé les choses, mais... je ne voulais pas me disputer devant les enfants.
Ça partait plutôt d'une bonne intention.
Oui, oui. Donc, depuis qu'on est séparés, d'ailleurs, on a divorcé par consentement mutuel, hein, donc pour que les choses aillent le plus vite possible, pour que justement les enfants soient le moins impactés possible. Je ne voulais pas que ce soit un conflit. Pour eux, et que je voulais... Mon ex-mari a toujours été un père formidable. Il s'est occupé des enfants, on travaillait tous les deux, il s'est occupé des enfants, il a pris un congé parental à temps partiel pour s'occuper des enfants. Moi, j'étais aussi très présente, enfin, on travaille tous les deux beaucoup, mais le temps qu'on consacrait à nos enfants, c'était du temps vraiment plein, et nos enfants nous ont jamais reproché de trop travailler. Je pense qu'on a la chance d'avoir des enfants qui sont assez épanouis et assez bien dans leur tête, je pense, et dans leur peau. Et je ne voulais pas que notre séparation... Parce que pour moi, c'était mon mari pour la vie et ça a vraiment été une déchirure, hein, de pas vieillir avec lui.
Mais au moins, vous vouliez que ça soit vraiment leur papa pour la vie et garder ce rôle, garder ce rôle-là.
Claire. D'accord. Et surtout, mon ex-mari... Parfois, quand il n'est pas bien, il me dit « Moi, je vais réprimer mes enfants quand ils vont grandir. » Enfin, quand ils vont grandir, ils sont grands, mais quand ils vont avoir une vie d'homme, ils ne viendront plus me voir. Parce que lui, il ne va plus voir son père.
Ouais, il a peur.
Et je lui dis « Mais... » Et je m'énerve quand il me dit ça, parce que je lui dis « Tu ne peux pas dire ça, tu es un père formidable, les enfants t'aiment. Alors, s'il te plaît, fais un effort et continue à leur consacrer du temps. » Parce que suite à notre séparation, donc il a tout... Comment dire ? Il a tout largué, quoi. Il voulait changer de métier, alors qu'il était très bon dans son métier. Il voulait changer de région, alors que les enfants étaient encore là à l'époque. Enfin, bon, bref, il voulait couper tous les ponts. Puis il disait, de toute manière, moi, les enfants, je ne les verrai plus. Puis je ne verrai plus ma famille, comme je ne vois plus mon père. Et comme je ne vois plus beaucoup ma sœur, quoi. Et je m'énervais parce que je disais, c'est facile de dire ça, ça tient qu'à toi, c'est toi qui vas gérer le lien que tu vas avoir avec les enfants. Et pour l'instant, les enfants t'aiment et je ne vois pas pourquoi ils ne viendraient plus te voir si toi tu fais si tu continues à avoir un lien avec eux. Bref, aujourd'hui, donc, il a changé de région. Et nos enfants donc sont grands maintenant et ils font leurs études ailleurs que dans notre ville. Et donc lui, il vit un peu au jour le jour en fait, c'est-à-dire qu'il décide un peu au dernier moment ce qui va se passer. Donc pour Noël, alors que moi je planifie tout en fait, d'abord parce que je travaille beaucoup et que je peux pas prendre des vacances. Tout le temps.
Puis quelque chose me dit que vous êtes quelqu'un d'assez perfectionniste.
Oui.
un petit besoin de contrôle et de perfection pour avoir un cadre, pour tenir debout.
Ouais, complètement. C'est peut-être d'ailleurs, des fois je me demande si c'est normal, mais oui, c'est tout à fait ça. Et donc, Donc, ben, moi, j'avais quand même un peu planifié les vacances de Noël parce que ben, les enfants, ils avaient besoin de savoir où il fallait qu'ils aillent, quoi, en fait. Ils ont aussi des copains à voir, ils ont aussi une vie aussi à mener. Donc, quand ils viennent me voir, ben, je me rends disponible et puis on prend quelques jours ensemble. Et puis, donc, on avait planifié que c'était certains jours avec moi et puis d'autres jours avec leur papa. Et puis, leur papa leur dit, bah, la veille, bah, on m'invite à aller quelques jours au sport d'hiver. Si vous voulez, vous venez avec moi. Mais bon, il ne s'est pas rendu compte qu'ils avaient déjà planifié aussi des rencontres avec leurs copains ou ils avaient... Enfin, ils avaient prévu que quand ils étaient chez leur père, ils allaient faire ça, ça, ça. Et donc, leur père annonçant qu'en fait, finalement, ils ne seraient pas là les jours où ils viendraient parce qu'on invitait au ski, bah, les enfants ont dit, bah, non, on ne vient pas avec toi parce que nous, on doit rencontrer nos copains. Donc, il ne l'a pas très bien pris. Alors, il ne l'a pas dit devant les enfants, mais à moi, il me dit, bah, tu vois, les enfants, ils ne veulent pas me voir. J'ai dit, bah, non, ils ne veulent pas te voir, c'est qu'ils avaient prévu de passer des jours avec toi. Et puis toi, tu t'en vas. Alors certes, on les a vus tant, mais ça les désorganise aussi. Donc tu peux comprendre peut-être qu'ils disent qu'ils ne veulent pas. Moi, ça me semble une aberration. Alors est-ce que je me trompe? Est-ce que pour lui, en fait, je peux comprendre que ça lui fasse mal? Mais j'ai du mal, en fait, à comprendre son fonctionnement.
Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, Catherine, et pardon de vous bousculer un peu, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps, l'émission va se terminer dans quelques minutes. C'est pourquoi vous êtes au milieu de tout ça. C'est votre ex-mari, ces histoires d'organisation de Noël avec des enfants qui sont quand même des très grands enfants, ça les regarde. Pourquoi est-ce que vous portez aussi ça sur votre dos à vous? Je dis ça dans le sens positif, c'est pas vos oignons. C'est les siens. Il s'est mal organisé. Il a mis une pagaille la veille, les enfants l'ont compris et les enfants sont assez grands pour dire « Écoute, papa, non, nous, ça ne nous convient pas. » Ça les regarde. Pourquoi est-ce que vous faites du mal encore à vous mettre au milieu de tout ça comme un aiguilleur de train qui voudrait que tout le monde aille dans la bonne direction et qui n'y arrive pas, quoi?
Eh bien, c'est que, en fait, je voudrais éventuellement... je culpabilise un peu en disant « J'ai peut-être trop organisé les choses ». Et
du coup, vous continuez à les organiser encore?
Ouais, ben oui, et c'est pareil avec février, quoi. Parce qu'en février, j'ai organisé les choses, et puis là, ben, ils commencent à me dire que ça va pas comme j'ai organisé, parce que, moi, j'avais organisé en disant, ben, comme il est plus dans la région, j'ai dit, ben, ils viendront, parce qu'il a encore une maison là où on habitait. Donc, j'ai dit, ben, ils viendront le week-end dans la maison, et comme ça, tu pourras les voir. Et puis, comme tu n'es pas là la semaine, ben, la semaine, ils viendront chez moi. Mais ça ne va pas.
Il faut vraiment que vous intégriez le concept de ex. Ex-mari.
Oui. Oui.
Ça n'est plus à vous d'organiser quoi que ce soit en ce qui le concerne.
Oui.
Ça lui plaît pas, ça fonctionne pas, c'est plus votre problème. C'est pour ça que vous l'avez quitté. C'est pour ne pas sortir de ces galères-là. Et vous êtes toujours dans les mêmes galères, finalement.
Oui, c'est vrai.
Mais attention, vous savez, quand on a un problème avec le comportement de quelqu'un, la première question à se poser, c'est pourquoi moi, j'accepte qu'il se comporte comme ça avec moi?
Oui.
Et oui. Là, il y a vraiment un lien. Il y a un lien à couper symbolique. Et une question importante à vous poser, c'est voilà, pourquoi j'accepte finalement de me laisser emmerder, pardon le terme, mais c'est vraiment ça, de me laisser enquiquiner la vie par lui, parce qu'il change d'avis, parce qu'il s'organise mal, parce qu'il n'est pas content, c'est plus votre mari.
Oui, alors moi je le vois plutôt comme le père de mes enfants.
Oui, mais
je ne voudrais pas que ça déstabilise mes enfants.
Mais vos enfants, redites-moi, quel âge ils ont?
Oui, 18 et 20.
Voilà, non, mais j'avais bien enregistré. Là aussi, à un moment donné, je crois qu'il va falloir apprendre à vous occuper de vous. Parce que vous êtes beaucoup dévoués. Effectivement, j'entends qu'il y a ce schéma là dont on parlait tout à l'heure, qui est un schéma de besoin de perfection et de cadre. Après, ça, c'est probablement lié à votre histoire de vie et à plein de choses dont on ne va pas avoir le temps de parler là. Mais il y a cette façon d'être qui est profondément ancrée en vous. Puis j'ai entendu cette culpabilité qui fait que peut-être c'est comme si vous étiez encore en train d'essayer de réparer quelque chose en espérant que ça se passe bien à chaque fois pour pas qu'il y ait trop de séquelles du divorce.
Oui.
C'est-à-dire que, en fait, moi, je lui en veux pas. Enfin, je lui en veux pas. C'est qu'il a une, il a quand même une vie qui a été compliquée. Et donc, je me dis que son comportement, il est lié à ses problèmes avec son père, en fait.
Oui, mais peu importe, c'est votre ex-mari.
Oui.
C'est ça, une fois de plus, je veux pas être désagréable envers lui, mais on peut pas porter sur ses épaules quelqu'un dont on a choisi de se séparer.
Oui.
C'est à lui de grandir, c'est à lui de faire une thérapie, c'est à lui de se soigner, de réparer ses blessures.
Oui.
Hein ? Je pense que vous avez fait déjà beaucoup. Je n'ai pas l'impression que vos enfants soient traumatisés quand même par la séparation, même si effectivement ça leur est un peu tombé sur le coin du nez, c'est normal. Mmh. Ils font leur vie, ils sont bien, ils voient leur père, ils voient leur mère. Laissez-le gérer ses relations avec les enfants. Ça serait des petits, je comprends, mais là, ils sont suffisamment grands. La preuve, ils l'ont bien géré, là, pour Noël. Non, papa, ok, ça ne nous convient pas. Lâchez l'affaire un peu de ce côté-là. Et surtout, cette énergie-là que vous mettez pour lui, entre guillemets,
oui.
Dirigez-la vers vous.
Oui. Hein ?
Vous avez aussi le droit de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous font du bien, d'organiser les choses avec vos enfants comme vous le souhaitez. Le reste, ça ne vous concerne plus. C'est quand même l'intérêt d'une séparation, c'est aussi ça, c'est d'arrêter de porter l'autre à bout de bras, quoi.
Oui. Oui, oui. Oui, oui. Et donc, par exemple, si j'organise et puis que derrière, il me dit « ça va pas », qu'est-ce que je lui dis ?
C'est pas votre problème. Si c'est OK avec les enfants, vous faites comme vous avez décidé de faire.
D'accord.
Une fois de plus, ça ne lui convient pas. Et alors, il a qu'à organiser les choses autrement, aussi prendre mieux.
Oui. Oui.
Mais une fois de plus, vous prenez votre place. Et votre place aujourd'hui, c'est une place de maman et de femme qui est libre de cette relation-là.
Oui.
Avec beaucoup de respect. Et j'entends qu'il y a toujours effectivement un lien qui est plutôt, on va dire, qui n'est pas un lien de conflit entre lui et vous. Mais quand même, autorisez-vous à prendre votre place. Parce que là, on dirait que vous passez votre temps à essayer que chacun ait la bonne place et soit confortable. Mais,
oui, oui.
Mais vous, vous vous oubliez un peu en route dans l'histoire.
Oui, oui, tout à fait. Mais justement, je ne savais pas où est-ce, si je pouvais mettre le « hola » entre guillemets. Oui, vous avez raison. Oui.
Et je pense que vos enfants vous en seront probablement reconnaissants parce que ce sera plus sain dans les rapports.
Oui.
Parce que là, il y a quelque chose d'un peu mou, d'un peu flou. Il n'y a pas vraiment de cadre, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y en a un qui tire d'un côté, l'autre qui tire de l'autre.
Oui.
Et ça, c'est jamais bon. C'est important que vos enfants sentent aussi que vous prenez votre place maintenant, quoi.
Oui, donc c'est eux qui décident, en fait, ce qu'ils veulent faire. Et puis après, si moi, ce que j'ai organisé, ça leur convient et... Ben, ils le disent à leur père et puis après...
Exactement. Vous avez la chance d'avoir en face de vous des enfants qui sont des jeunes adultes et qui sont capables de dialoguer, de réfléchir,
oui.
De prendre des décisions. Ce ne sont plus des petits, donc voilà, c'est important.
D'accord.
C'est important.
Très bien.
Pardonnez-moi Catherine, l'émission se termine déjà. Le temps passe toujours très très vite quand on discute comme ça.
Merci beaucoup.
Mais vraiment, prenez votre place, s'il vous plaît.
Merci.
Je vous embrasse.
Non.
Et oui, la Libre Antenne, c'est terminé pour ce soir. Demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouvez à partir de 22h30. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve, si vous le voulez bien, vendredi prochain à partir de 22h30 également pour de nouveaux échanges et de nouvelles confidences. Je vous quitte avec ma citation, bien sûr. Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. Voilà une citation pour vous, Catherine, justement. Je vous embrasse tous, passez une bonne nuit et à vendredi prochain.